Son couronnement aura lieu dans un mois et demi, mais il est légalement roi depuis le décès de sa mère à l'automne dernier. Charles III, 74 ans, est le roi le plus âgé de l'histoire de la monarchie britannique à accéder au trône, et il aura attendu ce moment quasiment toute sa vie. Philippe Kyle, bonjour.
Bonjour.
Vous consacrez une biographie très complète au nouveau roi, tout simplement intitulée Charles III, le nouveau roi que vous avez d'ailleurs personnellement connu, puisque vous avez travaillé plusieurs années au sein de sa fondation. Quel souvenir gardez-vous de votre rencontre avec celui qui n'était alors que le prince de Galles?
Le souvenir que j'en garde, c'est quelqu'un déjà qui a énormément d'humour. Quand je lui ai été présenté, il m'a demandé, pour la première fois, il m'a demandé que faites-vous au sein de ma fondation? Et je lui ai répondu, je m'occupe du service presse. Et il m'a répondu, ah, pas de chance. Donc je trouvais ça assez rigolo compte tenu des difficultés qu'on connaît, qu'il a pu avoir dans le passé avec la presse. Il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de recul sur lui-même. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très travailleur, très investi dans les causes qu'il défend. Et enfin, quelqu'un de très empathique. Voilà, je travaillais pour une fondation qui s'occupe de jeunes et de jeunes en difficulté, qui souvent venaient d'un milieu très éloigné, évidemment, du sien. Et il les mettait à l'aise, il les écoutait et il agissait pour eux. Donc, c'est quelqu'un de très empathique et de très travailleur.
Alors, vous parlez de son travail au sein de sa fondation. Dans votre livre, vous évoquez également, bien sûr, durant plusieurs chapitres, l'enfance, la jeunesse du futur roi. Une enfance qui est tout de même marquée par l'absence fréquente de ses parents, la reine Élisabeth et de son père. C'est une blessure affective qui l'a marquée, cette jeunesse, cette enfance un peu isolée.
Je pense qu'on a souvent exagéré en fait cette absence de ses parents. C'est vrai qu'au début, son père était posté au début de sa vie, son père était posté à Malte dans la marine, et sa mère, qui est alors la princesse Élisabeth, le rejoignait pendant plusieurs mois. Mais il avait un environnement familial très soudé au-delà de ses parents, avec sa grand-mère notamment, la reine-mère, dont il a été très proche. Moi, ce qui me marque plus dans l'enfance de Charles, c'est les difficultés qu'il a connues à l'école. Il en a souvent parlé lui-même, il a fait l'objet de brimades, il est allé dans une école notamment Gordonstoun en Écosse, où il a vécu des choses très dures en tant qu'enfant. Donc si on veut parler de son enfance, moi j'insisterai moins effectivement sur la dimension parentale, mais plus sur la dimension scolaire où il a pu éprouver des difficultés.
Il y a quelque chose qui m'a marqué en lisant votre livre, c'est que quand il est enfant puis adolescent, de très grandes décisions sont prises pour lui sans qu'il puisse donner réellement son avis, à tel point qu'il en apprend certaines à la télévision. Par exemple, il apprend à la télévision qu'il va devenir prince de Galles. C'est un homme qui n'est pas maître de son destin.
C'est toute la difficulté et toute la dualité de quelqu'un qui est héritier au trône, dans le sens où effectivement il a une vie privée, mais sa vie privée ne lui appartient pas totalement. Il a aussi, puisqu'il est devenu le prince héritier direct au trône du Royaume-Uni dès l'âge de 3 ans, toute sa vie, il a été habitué à ce que effectivement des décisions soient prises pour lui dans l'intérêt. Non seulement dans son intérêt propre, mais aussi dans l'intérêt du pays. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que, voilà, en 58, quand la reine Elisabeth l'a nommé prince de Galles, il l'a appris à la télévision, entouré de ses petits camarades. Il ne s'y attendait pas du tout. Donc, mais c'est une chose à laquelle il a dû, au cours des années, s'habituer.
Il dit d'ailleurs, vous le citez dans votre livre, mon grand problème dans la vie, c'est que je ne sais toujours pas quel est mon rôle. C'est un peu le drame de Charles quand il est prince de Galles, trouver sa place et sa raison d'être en attendant un jour de succéder à sa mère.
On va dire quand il a entre 20 et 30 ans, il a eu un peu un questionnement existentiel sur quel devrait être son rôle, quelle devrait être sa place. Et c'était pas forcément évident puisque effectivement sa mère était encore jeune, donc il était assuré tout de même si la reine restait en bonne santé qu'il allait être numéro 2, prince de Galles, héritier au trône pendant encore de nombreuses années. Et au final, effectivement, il a été prince de Galles pendant plus d'un demi-siècle. Donc il a effectivement longtemps questionné quel devrait être son rôle, mais il l'a trouvé. Il s'est engagé sur un nombre de sujets absolument incroyables et avec succès. Je vous ai parlé tout à l'heure du Prince's Trust qui s'occupe de la jeunesse. Plus d'1 million de jeunes ont été aidés depuis la création de cette fondation en 1976. Et chacun sait également quels ont été ses combats, notamment sur l'environnement, et à quel point il a été efficace sur ce sujet.
Et visionnaire également. Il a été un peu moqué à une époque, le prince Charles, dans les années 70, pour ses combats pour la nature, l'environnement. On disait qu'il parlait aux fleurs, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il a été visionnaire sur l'environnement.
Oui, parce que dès 1970, on trouve trace d'un discours très passionné sur la lutte contre les pollutions. En 1970, on était sur la fin des Trente Glorieuses. C'était pas le sujet, enfin la préoccupation principale ni des industriels ni des politiques à l'époque. Et ensuite, à partir de là, toute sa vie, il a notamment combattu la culture des OGM, par exemple, à la fin des années 90. Ça a été vraiment un combat de sa vie, effectivement moqué au départ, et à la fin des années 80, quand ça a commencé. Ce sujet-là, l'environnement, a commencé à devenir central dans le discours politique. On a compris qu'effectivement, il avait été pression sur ce sujet.
On a reproché au prince de Galles, au prince Charles, de trop s'engager politiquement. Aujourd'hui, en tant que roi, il s'est mis un peu de côté. Il est plus réservé ou on sent qu'il a quand même envie d'intervenir?
Je pense que sa personnalité fait que c'est quelqu'un qui est très curieux, qui est très investi et qui a envie de partager son opinion et d'utiliser la position dans laquelle il est pour faire avancer les choses. Il l'a dit lui-même très clairement, très explicitement, qu'il a très bien compris que son rôle de souverain est différent de celui de son rôle de prince de Galles. En tant que souverain, il a un devoir de réserve. Rappelons qu'une fois par semaine, il rencontre le Premier ministre à huis clos, en tête à tête. Et on peut bien imaginer qu'il use de ce droit d'être consulté, évidemment, d'encourager sans doute, mais je me plais à imaginer qu'il utilise aussi bien, bien volontiers ce droit d'avertir.
Ce sera Charles III un roi réformateur ou simplement un roi de transition en attendant eh bien, que son fils William lui succède?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Charles III a évidemment eu une grande vie publique pendant plus d'un demi-siècle. Il a été prince de Galles pendant plus d'un demi-siècle. Il s'est préparé à cette fonction. Il a une idée très précise de comment il souhaite incarner cette fonction. Et je pense que l'on verra effectivement la monarchie évoluer au cours de son règne. De quelle façon, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas, comme beaucoup l'ont prédit, ce roi de transition. Je pense que c'est quelqu'un qui avait très envie de devenir roi. Rappelons tout de même que la monarchie britannique repose sur deux piliers importants. À la fois la modernisation, pour qu'elle puisse survivre, elle est obligée de se moderniser. Élisabeth II l'avait très bien compris d'ailleurs. Mais aussi la nécessité d'un grand respect des traditions. Et je pense que cet équilibre entre ce savant dosage entre modernisation et respect des traditions sera très visible lors du couronnement le 6 mai prochain.